Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. Voilà, au moins on est bien en direct, c'est ce qu'on peut dire ce soir à 19h, passé d'une minute. France Culture, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique, en direct jusqu'à 20h30. Quelle est la place de la France dans l'économie numérique? Quels sont nos atouts, nos fragilités? Ces questions sont importantes car il s'agit pour une part de la puissance de notre économie et de notre avenir. C'est aussi une question de souveraineté, de dépendance économique. Au cœur de ces sujets, il y a notamment la question financière. Pourquoi la France est-elle souvent en avance dans l'innovation et grâce à des start-up originales, je pense notamment à Deezer, OVH, Blablacar ou Dailymotion parmi d'autres, mais pourquoi ensuite, elles manquent parfois de financement et se font alors racheter par des fonds américains ou des japonais, comme par exemple Price Minister ou pour une part Deezer. C'est ici qu'interviennent les banques et plus encore les fonds d'investissement. Et c'est le sujet de cette émission ce soir. Mes invités pour en débattre sont Marie Eklund, du fonds d'investissement Daphni. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Je rappelle que vous avez été président du Conseil national du numérique, d'ailleurs assez brièvement puisque vous en avez démissionné fin 2017, c'est ça ?
Tout à fait.
Pourquoi ? Que s'était-il passé ?
En fait, j'avais présenté au gouvernement qu'il avait accepté un projet, c'est-à-dire que c'était de penser demain, cette idée de finalement le numérique, à quel projet de société on veut qu'il contribue.
Avec des membres que vous aviez choisis.
Avec des membres que j'avais choisis.
Qui avaient été validés par le gouvernement d'ailleurs.
Absolument, puisque c'est pas moi qui signe les décrets du gouvernement pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, non, c'est ce qui s'est passé fondamentalement, c'est que pour penser ce projet, pour penser finalement quelle est la société qu'on a envie de construire ensemble et pour laquelle on a envie, auquel on a envie de mettre le numérique en marche. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que cette pensée-là devait résonner au-delà de la sphère numérique pure.
Que les vrais... Donc vous aviez invité des gens un peu divers.
Absolument. Donc il y avait une agricultrice qui faisait de la permaculture parce qu'il y a des vrais sujets de comment est-ce qu'on va nourrir les populations demain si on veut penser une société qui soit juste, qui soit pérenne. Il y avait des sujets de démocratie. Donc Flore Vasseur qui est invitée ce soir faisait aussi partie de ce conseil pour penser finalement comment est-ce que le numérique, on peut le garder au service de cette démocratie. Et il y avait aussi un grand sujet d'inclusion puisque quand on voit l'Amérique de Trump, on voit bien que finalement le numérique, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas montré qu'il était en capacité de résoudre et de résorber les inégalités sociales. Et donc j'avais invité aussi à la table des gens comme Axiom et comme Rokhaya Diallo pour qu'ils portent la parole des populations qui sont aujourd'hui très socialement défavorisées en France pour penser une société
dont les noms ont été validés et ensuite rayés.
Il y a une pression politique très forte après leur nomination. Oui. C'était pas une pression médiatique, mais une pression politique qui a fait que effectivement le gouvernement m'a demandé de renoncer à leur présence. Et j'ai préféré renoncer au projet puisqu'il n'avait plus de sens en tant que membre indépendant, indépendant.
Démissionné donc du Conseil national du numérique, c'était fin 2017. Aucun regret ?
Aucun regret.
Avec vous ce soir également dans cette émission, François Véron, qui dirige le fonds d'investissement New Fund. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis tout à l'heure, en seconde partie d'émission, nous aurons notamment avec vous, Zoé Sfez, Flore Vasseur, qui nous parlera avec vous de Aaron Swartz.
Aaron Swartz, son livre « Ce qu'il reste de nos vies » paru aux éditions Équateur, essaye de retracer, elle s'est lancée sur la piste de Aaron Swartz. Je rappelle qui est Aaron Swartz. C'est à la fois un écrivain, un informaticien, un génie de l'informatique, surtout un grand défenseur de la liberté numérique qui a mis fin à ses jours en 2013, il avait 26 ans, alors qu'il risquait une condamnation à 35 années de prison pour avoir piraté un site de publication scientifique, et ça au nom de ses idéaux.
Il était au MIT.
Il était au MIT, on va parler évidemment de l'itinéraire notamment de cette figure, ce qu'elle suscite, et puis sa postérité, ses potentiels héritiers, 6 ans après sa mort bientôt.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de Facebook qui se propose de fusionner ses messageries instantanées, que ce soit Messenger, WhatsApp ou Instagram. Nous serons pour en parler avec Gilles Fontaine, rédacteur en chef de Challenge, et de l'ancien ministre spécialiste des questions numériques, Christian Paul. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission réalisée par Anna Holweck avec en régie Alexandre Dang. Elle a été préparée par David Lavaux. Vous pouvez suivre cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, sur Spotify, Facebook, LinkedIn en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. Je commence cette émission en évoquant deux livres qui viennent de paraître sur les médias aux États-Unis. On ne les a pas encore lus ici, on va le faire sous peu, mais ils méritent d'être signalés déjà car ils suscitent des débats outre-Atlantique. Le premier est signé par Jill Abramson, ancienne directrice de la rédaction du New York Times, dont elle était partie. Elle publie Merchants of Truth, les marchands de la vérité, où elle compare quatre médias et leur transformation numérique. Il s'agit de BuzzFeed, de Vice, du Washington Post et du New York Times. Ce qui semble intéressant dans ce livre, d'après les longs commentaires déjà publiés dans le New Yorker, ainsi qu'un autre article par le rédacteur en chef de Wired, c'est que les pure players digitaux comme BuzzFeed ou Vice ont su inventer et devenir des médias entièrement nouveaux avec de nouvelles règles, de nouvelles écritures. Pour autant, leurs audiences étaient pour une part artificielles grâce au piège à clic, comme on dit, à l'atténuation des différences entre l'information et la publicité et aux algorithmes de Google ou de Facebook. Lorsque ces algorithmes ont été modifiés, leurs audiences se sont effondrées. En revanche, le Washington Post et le New York Times, qui n'ont pas mis, comme on dit, tous leurs œufs dans le même panier, ont progressé de manière spectaculaire. Ces médias traditionnels ont veillé à ce que leurs articles sur le net soient lus à la fois sur toutes les plateformes et dans tous les formats de manière confortable. Et surtout, à l'inverse de BuzzFeed, ils ont préservé la qualité de leur journalisme tout en allant vers les clics faciles sur un nombre très limité de sujets, même s'ils ont également mis en avant leurs articles et notamment les articles les plus lus. Un autre livre signé Alan Rubbs-Bridger, ancien directeur du Guardian à Londres, s'intéresse notamment à Google News, aux évolutions du marché des petites annonces récupérées par des sites comme Craigslist, sites et outils qui ont affaibli considérablement la presse, notamment la presse régionale. Comme le montre un article intitulé « Hard News » de Jill Lepore, qui traite notamment les deux livres qui viennent de paraître, et qui vient d'être publié dans le New Yorker, l'industrie des médias traverse la période la plus dramatique, mais aussi la plus excitante de son histoire. Et ce, depuis sans doute l'invention de l'imprimerie. Réfléchir à ces évolutions, c'est aussi réfléchir à l'avenir de la liberté de l'information, à la liberté de la presse, et pour une part, au futur de la démocratie. Les livres de Jill Abramson, Merchant of Truth, et d'Alan Rubbs-Bridger, Breaking News, viennent de paraître en anglais. L'actualité, comme chaque semaine, pour commencer cette émission, actualité politique culturelle, des industries créatives et des médias avec vous, Zoé Sfez. Et ce soir, on revient sur un feuilleton qui nous occupe déjà depuis plusieurs mois, et la mise en place du Pass Culture. Et comme c'est un feuilleton récurrent, eh bien, on feuilletonne.
Voilà, nouvel épisode cette semaine, puisque, alors que je rappelle qu'il était prévu que ce Pass Culture soit testé en décembre dernier, finalement, il commencera à être testé au début de la semaine prochaine dans 4 départements, l'Hérault, le Bas-Rhin, le Finistère, la Guyane et la Seine-Saint-Denis, donc des départements français assez divers. Il y a 12 000 jeunes de 18 ans qui se sont inscrits, donc qui sont volontaires. Donc là encore, c'est intéressant parce que ce sont des volontaires, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont tous issus de différents endroits des départements où ils sont. Ils sont théoriquement, ils ont été choisis de milieux différents avec tout niveau de diplôme différent, c'est-à-dire des gens qui sont en filière classique, des gens qui ont arrêté l'école en troisième, etc. Et donc, dans quelques jours, là, c'est dans 3 jours, ils vont recevoir ce fameux Pass Culture. Je rappelle ce que c'est, 500 € disponibles sur une application sur smartphone ou sur ordinateur, une application géolocalisée quand on est sur smartphone, qui leur permettent de dépenser jusqu'à 200 € de livres, CD, DVD, œuvres d'art, 200 € de biens numériques. Là, il y a un plafond, rappelez-vous, on en a beaucoup parlé, c'était le débat. Ça peut être un abonnement sur Deezer, des jeux de vidéo en ligne. Pas de plafond, en revanche, pour tout ce qui est sortie culturelle, concerts, spectacles et pratiques artistiques, puisqu'il y a énormément d'offres, par exemple, de cours ou d'initiation qui sont disponibles par ce Pass Culture. Deux détails un petit peu nouveaux qu'on n'avait pas encore jusque-là. Il n'y aura aucune livraison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commander un livre qui arrivera. Vous devrez aller dans la librairie où vous avez choisi d'aller ce livre. Le principe étant
outil anti-Amazon qui ne dit pas son nom.
D'une part, et puis d'autre part aussi, le but, c'est que ces jeunes-là prennent des habitudes, finissent par rentrer dans la librairie où peut-être ils n'ont jamais mis les pieds pour que ça soit théoriquement plus facile. Alors, ce qui pose aussi beaucoup de questions, il y a des libraires qui se disent quand même un peu intriguée. On sait qu'on peut commander un livre sur une librairie, puis finalement jamais venir le chercher. On connaît le problème de la, entre guillemets, gratuité. Vous savez, ici à Radio France, où pendant les 10 premières années, tous les concerts, par exemple, de la Maison de la Radio étaient gratuits parce que c'était le service public. On s'est rendu compte qu'il fallait les faire payer parce que les gens, sinon, ne venaient pas. En fait, quand c'est gratuit, ils ont du mal à y accorder finalement une forme de valeur. La vraie question qui fait vraiment grincer des dents de certains côtés et pas d'autres, c'est celle du financement. Je rappelle que ce pass culture est censé coûter 400 millions d'euros par an. Alors comment il est financé ? Eh bien, il faut savoir que tous les biens culturels physiques qui ont été achetés par le pass, qu'il s'agisse de livres, de places de cinéma, de cours de musique, seront remboursés par l'État. Donc le ministère de la Culture le rembourse aux libraires, à l'association qui a donné ce cours. Mais ce n'est pas le cas pour les biens numériques. Ce n'est pas le cas pour, par exemple, un abonnement sur OCS, un abonnement sur Canal+, un abonnement pour Deezer, mais aussi pas le cas pour la presse et pas le cas pour les jeux vidéo. Résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ces acteurs qui se sont engagés pour le jeu vidéo, par exemple, ces 5 studios français de jeux vidéo, dont le grand patron Ubisoft, eh bien, ça veut dire qu'ils offrent, on va dire, gracieusement, tout ce qu'ils proposent sur le pass culture à ces jeunes de 18 ans qui vont pouvoir les commencer. Alors, on va aller sur le pass pour faire bonne figure, nous dit par exemple le patron d'Ubisoft, mais on sait qu'il y a énormément de studios qui se sont retirés quand ils ont appris ça, en considérant qu'il suffisait peut-être qu'on leur rembourse 20% pour qu'au moins on puisse rétribuer les créateurs. Côté presse, il n'y a que quelques titres qui ont décidé de jouer le jeu. Le Parisien, Les Échos, 20 Minutes, Ouest France et 2 magazines, Beaux-Arts et Première. Les autres se sont retirés. On sent que effectivement c'est une décision qui choque. D'autant plus que certains évoquent, rappelez-vous cette opération Mon Journal Gratuit, vous vous rappelez de ça ? C'était il y a 12 ans. Le principe c'était le même. C'était des jeunes qui recevaient gratuitement un quotidien. J'en ai fait partie une fois par semaine. Et on avait remarqué qu'il y avait eu, je crois, un pourcentage d'abonnement plus que minime, c'est-à-dire inférieur à 1%. Je ne vois pas pourquoi le Monde offrirait au pass culture ses contenus sans contrepartie financière, a indiqué le quotidien, qui ne participe donc pas au pass culture. Alors, le ministère de la Culture se défend en disant que le coût marginal des offres numériques est très réduit, voire nul, c'est-à-dire que si vous offrez un abonnement à un jeune de 18 ans, ça ne vous coûte pas plus cher que de ne pas lui offrir.
Sauf s'il en achète régulièrement et s'il abonne.
S'il en achète régulièrement, déjà. Et c'est vrai que pour la défense du ministère de la Culture, on peut peut-être en douter. En tout cas, rien n'est fixe, nous dit la Rue de Valois. Le principe même de cette expérimentation, c'est de pouvoir potentiellement ajuster. Avant l'été, il y aura une deuxième vague avec d'autres territoires de tests. Avant, une généralisation du dispositif qui devrait arriver d'ici la fin de l'année ou peut-être début 2020.
Autre sujet d'actualité ce soir, la disparition de l'auteur et dessinateur de livres jeunesse, Tommy Ungerer.
Tommy Ungerer, donc immense auteur de livres pour enfants notamment, mais pas que, qui nous a quittés hier à l'âge de 87 ans, après une carrière riche de plein de choses, 70 livres pour enfants, des milliers de dessins, des collages aussi, des dessins quasiment tout de suite immédiatement reconnaissables. Alors c'était un homme assez étrange, il était né à Strasbourg, il avait donc été élevé en allemand, puisque très vite après sa naissance, son père meurt et ensuite il est marqué par l'occupation des biens de l'Alsace par l'Allemagne nazie, puis par le retour de la France qui se passe relativement mal pour lui. Du coup, il quitte la France à 25 ans. Il devient dessinateur aux États-Unis. À 25 ans, il est publié par tous les plus grands journaux américains, Esquire, Life, The New York Times. Il publie aussi des dessins érotiques et il se met à faire des livres pour enfants. Son premier livre, c'est Les Mélops font de l'avion. C'est une histoire d'une famille qui suit une famille de cochons et suivront plus de 70 livres, toujours très acerbes, assez violents, souvent très cruels. Il est essentiel de traumatiser les enfants, disait Tommy Ungerer, pour qu'ils puissent faire face à la vie. Je pense par ailleurs que les histoires trop écrites ou trop belles éliminent l'imagination. Alors parmi ces chefs-d'œuvre, on peut citer L'Homme de la Lune, Jean de la Lune, et puis deux livres avec lesquels personnellement j'ai grandi et qui ont sans doute nourri mon imaginaire plus que moi-même je ne l'imagine ou je ne le sais, Les Trois Brigands et Le Géant de Zeralda. Je connais toutes les planches par cœur, qui racontent des histoires quand même, quand on y revient, extrêmement violentes. C'est des histoires d'enfants enlevés dans les deux cas, des petites filles qu'on prévoit de manger, de tuer, d'assassiner, et puis finalement qui arrivent à retourner la situation en se basant sur les choses essentielles de la vie, notamment sur la merveille de la gastronomie pour Le Géant de Zeralda. Voilà, Tony Ungerer, il avait survécu à 3 infarctus et un cancer. Il avait inventé une petite devise qui s'appelait Tumor with Humor et qui regrettait que finalement, peut-être, il a été relativement peu reconnu en France, même si l'École des loisirs et Geneviève Brisac, saluons-la ici, l'a publié avec tout le succès qu'on connaît. Disais-moi, mes plus grandes influences s'appellent quand même Chamfort, La Rochefoucauld, Jarry et Jules Renard. Voilà, Tommy Ungerer, grand chapeau bas.
Voilà, il y aura peut-être des petites zoéspèces qui, sur leur passe culture, achèteront ces
je
livres.
Je leur souhaite acheter, de toute façon, acheter les livres de Tommy Unger.
Dans un instant, on s'intéresse au numérique français, à son financement, avec Marie Eklund et François Véron, mes invités ce soir. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur les Grammy Awards qui auront lieu cette nuit en direct de Los Angeles. Sélection des prétendants aux Grammys, mix et montage de Anna Holweck pour Soft Power.
Says she tired, little money, need a big boy. Pull up 20-inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S pumping Fallout Boy.
In the way. Yeah, minus nine niggas in the way, but they will not get nothing off. In the way, minus nine niggas in the way, they will not get nothing off.
In the way,
in the way,
minus nine niggas in the way, they will not get nothing off.
In the way,
it's funny to watch them their attempt at blocking, but they will not get nothing off.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling.
Cette nuit aura donc lieu à Los Angeles la 61e soirée des Grammy Awards qui sera animée par la chanteuse Alicia Keys avec parmi les nominés Drake, Kendrick Lamar, Post Malone et Hair ou encore Childish Gambino parmi beaucoup d'autres que l'on écoutait à l'instant. Le rap et la pop américaine sont en forme, ils sont en train d'atteindre leur maturité et suscitent un vrai engouement mondial notamment pour le rap. La soirée française équivalente, celle des Victoires de la Musique vendredi soir, était en revanche en petite forme. Moins de 2 millions de téléspectateurs l'ont suivi, le pire score de son histoire. Alors, il faut dire que si la musique américaine est innovante et créative, la musique française est parfois un peu plus poussive, la soirée des Victoires était assez ennuyeuse. Aux États-Unis, les Grammys sont plus attendus, cette nuit donc en direct sur CBS, ce qui n'exclut pas les polémiques. La place des femmes y est très décriée, et ce sera l'un des sujet en débat ce soir, surtout qu'une étude de l'université USC montre que les femmes restent les grandes absentes de la musique actuelle américaine. Les rappeurs qui raflent les prix ont également tendance à bouder la cérémonie, trop occupés à se produire de l'autre bout du monde. La question noire et les violences policières continuent à sous-tendre bien des débats. Mais ces polémiques ne doivent pas faire oublier la qualité de la musique actuelle américaine, ce que l'attribution du prix Pulitzer à Kendrick Lamar l'an dernier, une grande première, ou le succès spectaculaire de Drake avec son titre Le plan de Dieu confirme.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. Wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah. I go hard on Southside G. Yeah, wait.
France Culture, passé de 20 minutes, 19h, passé de 20 minutes, vous êtes en soft power jusqu'à 20h30. Ce soir, Marie Eklund du fonds d'investissement Daphne est avec nous, ainsi que François Véron de notre fonds d'investissement qui s'intitule New Fund sur fond de musique nord-américaine, Drake à l'instant. On pourrait peut-être commencer avec vous sur, disons, les grandes tendances un peu de ce qu'on pourrait appeler la révolution, en tout cas les évolutions en termes d'investissement. Peut-être avec vous, François Véron, qu'est-ce qui est en train de se passer, disons, dans le paysage de l'investissement, du capital risque et des fonds d'investissement en France ?
On a plusieurs grandes tendances. La première, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent dans le secteur. Beaucoup poussé par de l'argent public au niveau français avec BPI France ou au niveau européen avec le Fonds européen d'investissement. Mais c'est aussi un effet d'entraînement sur des investisseurs internationaux. On a aujourd'hui des tours de table qui sont de plus en plus significatifs. Hein, pour donner des ordres de grandeur, c'est des 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, ce qui était extrêmement rare il y a seulement 4 ou 5 ans. On a des investisseurs internationaux qui vont participer typiquement à 15 à 20% de ces financements. Ça, c'est côté financement. Et on a aussi des évolutions extrêmement fortes du côté des projets avec une dimension logicielle, donc ce qu'on appelle le SaaS, hein, le Software as a Service, qui au début est un mode de distribution ou d'hébergement du logiciel et qui est en train de lui permettre de s'introduire dans à peu près n'importe quel type d'entreprise.
Ça veut dire que l'entreprise n'a plus besoin d'avoir tout ça dans ses ordinateurs, elle le met sur du cloud et c'est géré ailleurs, c'est ça ?
Et ça veut dire aussi qu'elle peut utiliser des bouts de logiciel pour à peu près tout et n'importe quoi, la gestion de son fichier client, la gestion de sa facturation, certains aspects métiers qui sont de plus en plus standardisés. Et donc l'entreprise devient de plus en plus un assembleur de logiciels, ces logiciels se retrouvant d'ailleurs chez ses concurrents, mais aussi dans d'autres entreprises qui font la même chose qu'elle au niveau international. Et c'est une remise en cause des frontières classiques de l'entreprise qu'il y a derrière ce type de mouvement.
Marie Eklund, très souvent, dès qu'on parle, et on va en parler beaucoup ce soir, même si c'est assez technique, on va essayer de rentrer un peu dans les détails tout en étant pédagogique. Lorsqu'on parle de fonds d'investissement, de capital risque, etc., au fond, c'est tous ces gens-là veulent gagner de l'argent et c'est comme s'il n'y avait pas d'autre objectif ou d'autre sens à ces métiers.
Oui, alors moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, quand on investit avec l'objectif de gagner de l'argent, dans notre métier, je rappelle, hein, quand on investit dans une entreprise, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des parts du capital, on devient actionnaire. Donc, on devient associé des entrepreneurs. Et ce qu'on voit bien, c'est que si on investit avec l'idée de faire un coup, donc d'uniquement de gagner de l'argent, ben, finalement, on a peur d'en perdre. Et donc, on prend pas assez de risques. On est sur des métiers d'innovation où ce qui va vraiment être le moteur des entrepreneurs, c'est cette... Et ce qui va les rendre résilients, et notamment la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y aura des situations extrêmement compliquées à gérer ensemble, c'est s'ils sont finalement portés par une mission qui est plus grande qu'eux, par une mission qui fait qu'elle va être transformative de la société, et ça les porte, et ça porte aussi toutes les équipes. Et ce dont moi je me suis rendu compte à titre personnel, c'est que s'il n'y avait pas ce sens-là, ben finalement c'était rare d'arriver à construire des grandes aventures. Et que donc en revanche, quand on y arrive, et quand on arrive à financer des sociétés avec des gens qui, à la tête, sont vraiment ce moteur-là.
Et ils ont une vision.
Ils ont une vision et ça devient du coup extrêmement ambitieux, extrêmement grand et donc on gagne de l'argent. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas un objectif en soi.
François Véron, comment ça se passe concrètement ? Je lance ma start-up, donc on commence par quoi ? Ses amis, sa famille, pour trouver un petit peu le capital de base ?
Je crois qu'on commence par le projet d'abord.
Tout seul, oui.
Et ça rejoint ce que vient de dire Marie, c'est-à-dire que il faut voir que le niveau de concurrence aujourd'hui est très important, que les bonnes idées, tout le monde en a. Et donc, si vous n'êtes pas suffisamment déterminé et que votre projet n'a pas une certaine clarté, quitte à... Dans votre tête pour commencer, voilà, il ne faut pas y aller. Ensuite, la prochaine étape, c'est le début de l'équipe, c'est-à-dire les cofondateurs. Il y a très peu de projets aujourd'hui
où on est seul,
exactement. Mmh. Typiquement parce qu'il faut à la fois des compétences business et des compétences techniques. On a parlé logiciel tout à l'heure, mais c'est vrai dans l'ensemble des dimensions d'innovation, il faut aujourd'hui être capable de coder, il faut avoir une maîtrise des développements qui se fassent au niveau des cofondateurs. On a même aujourd'hui des équipes à 3 ou 4 cofondateurs, parce qu'il va y avoir une dimension métier, etc. Ensuite, la mise au point du produit aujourd'hui coûte de moins en moins d'argent. D'abord, il y a des aides un petit peu partout, il y a des incubateurs, il y a même des banques qui sont aujourd'hui capables de prendre...
Quelques dizaines de milliers d'euros.
Voilà, exactement, quelques dizaines de milliers. Et finalement, pour rejoindre votre question, le plus tard, on va se présenter devant des business angels ou devant des fonds d'investissement pour lever de l'argent, le mieux on est, parce qu'on va laisser le moins de capital possible pour un montant maximum. Et cette phase initiale qui arrive à quelquefois permet de mettre sur le marché un premier produit ou un premier service, d'avoir ses premiers clients, elle est totalement déterminante pour la suite. Il ne faut pas lever d'argent trop tôt. C'est un peu paradoxal quand on est investisseur de donner ce conseil, mais je crois qu'on est un peu tous à le donner. Plus l'équipe arrive fort sur le marché, et mieux c'est. D'ailleurs, la plus grosse levée de fonds française en 2018, elle a été faite par Goldman Sachs sur une équipe qui n'avait jamais levé d'argent avant. C'était Vaudou.
Les amis, c'est là où les amis, les friends, la famille entre, et puis très vite les business angels. Alors là, c'est pas vous. Vous, c'est quelle catégorie de personnes?
C'est souvent aujourd'hui d'anciens entrepreneurs, souvent du numérique, qui à la fois par passion, par intérêt, parce qu'ils veulent continuer à être à la page, et aussi par la volonté de redonner, on va dire, à la communauté une partie de ce qu'ils ont pu gagner, décident d'accompagner des jeunes entrepreneurs, ou des plus jeunes qu'eux souvent. C'est d'ailleurs très intéressant de pouvoir les avoir aux côtés des fonds. Il n'y a pas des étapes mécaniques, il n'y a pas aujourd'hui, je crois...
Ils donnent aussi des conseils, ils peuvent être là pour assurer un carnet d'adresses aussi, faire rencontrer des gens, etc. Et puis c'est là où arrivent ensuite les venture capitalistes, donc au fond les fonds d'investissement, on peut le dire aussi sous cette forme-là. Il y a une différence entre venture capitaliste et fonds d'investissement?
Fonds d'investissement, ça va être plus généraliste, mais fondamentalement, c'est ce qu'on est.
En tout cas, il y a une idée de risque dans les deux cas.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans venture capital, qui est le mot anglais, c'est le capital aventure. Donc, on part pour l'aventure humaine, là où la traduction française, c'est capital risque.
Donc, déjà, c'est intéressant.
Donc, ce qui montre bien, finalement, les différences culturelles.
Alors là, il y a plusieurs types de fonds. Il y en a qui arrivent ce qu'on appelle du early stage et ce qu'on appelle du seed, c'est-à-dire au fond, en anglais, c'est tout simplement. Simplement, comment on pourrait traduire,
c'est des graines, des semences, aider.
Et puis ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les séries ABC. On peut revenir sur ces différentes étapes selon, qui ne sont pas du tout sur les mêmes montants.
Alors, plus le marché est large et plus on va avoir tendance à le segmenter. Aux États-Unis, on a maintenant du pré-seed, du seed, du post-seed, du late A, etc. Ce que ça veut dire, c'est simplement qu'il y a une logique finalement dans la construction du projet. Il y a toute une série d'étapes. Et à ces étapes, il y a des étapes de finance, correspondent des étapes de financement. Au démarrage, il y a donc mettre sur le marché un produit. Une deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le product market fit, que ce produit trouve son marché, trouve un cas d'usage qui est répétable. Ensuite, on va aller chercher des canaux de distribution. On va ensuite définir des units économiques, c'est-à-dire combien coûte un client, combien coûte la production du service. Et finalement, chacune de ces étapes se formalise à travers un nouveau financement, ce qui permet aussi de valider le succès de l'étape précédente. Faut voir que ce qui est assez fascinant dans ce monde du venture capital, c'est qu'il est à la fois extrêmement darwinien et extrêmement courageux. Comme dit Marie, il faut aller chercher du risque maximum et donc on est en économie totalement capitaliste. À la fin, c'est bien le profit et l'introduction en bourse typiquement dans le système américain qui va mesurer le succès de l'expérience. Et en même temps, on passe notre temps à financer des pertes. Et cette équation qui n'est pas évidente va se résoudre à travers ces différents stades de financement. Donc typiquement le série A en France aujourd'hui, c'est 5 à 10 millions d'euros. Le série B, c'est autour de 20 millions d'euros. Le série C, c'est 30 ou 50 millions d'euros. C'est ça qui permet de construire des entreprises à vocation mondiale.
Darwinien, ça veut dire d'une certaine manière, non pas celui qui est le plus fort et le plus gros, mais aussi celui qui va s'adapter, qui va être habile, agile, comme on dit dans le numérique.
Oui, c'est par exemple l'exemple d'Airbnb qui a pivoté plusieurs fois et qui, sur la base de son support de présentation initiale, avait rencontré extrêmement peu de succès. l'histoire.
Ou Netflix, qui au début envoyait des DVD dans des enveloppes rouges, à l'ère d'avant le numérique, et qui a su, du jour au lendemain, basculer en numérique. D'ailleurs, se faire critiquer, les polices arctiques disaient, ils sont fous, ils sont morts, alors qu'évidemment, ils ont commencé à naître, c'est ça, Marie Eklund?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu ça aussi sur Criteo, qui était finalement l'un des plus grands succès de la scène start-up française,
oui.
Où les deux premières années et demie, on a tâtonné, on a changé d'offre, on n'était pas du tout sur un modèle publicitaire historiquement, et c'est en le trouvant qu'ils ont réussi à ensuite trouver ce fameux product market fit, donc une adéquation de marché à une proposition de valeur, et après grandir et devenir le leader international sur ce segment-là.
Pour Criteo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsque vous êtes sur Facebook et vous voyez une publicité passer où vous...
Vous cliquez,
parce que ça vous intéresse un petit peu, puis vous partez, vous revenez le lendemain au hasard, je veux dire, sur la Fnac ou sur notre site, vous retrouvez la même publicité. En fait, ils vous suivent.
Ils savent quelles chaussures vous avez envie d'acheter.
Exactement, Zoé Svez.
En termes de, je sais pas, d'ordre d'idées, parce que là, on a compris, il y a effectivement ces différents stades. Combien de sites, je sais pas si cette question est concrète, mais combien évidemment, on imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont financés en site. Ensuite, des séries A, des séries B, des séries C, chaque année, il y en a pas autant. C'est quoi, disons, les espèces de proportions? Comment ça fonctionne? On parlait de darwinisme tout à l'heure. Je vais reposer la question autrement. À quel moment est-ce qu'il y a des projets qui disparaissent de ces fameux stades de financement?
Alors, c'est très schématique, mais vous avez la moitié ou le tiers à chaque stade qui passe le stade
suivant. D'accord. Donc, effectivement, c'est une forme de... Il n'y a pas de mort subite, mais ça peut arriver. Et qui peuvent revenir, effectivement, en rechangeant et en repartant, etc. Est-ce que quand vous avez un projet, Criteo, Airbnb, vous pouvez zoner longtemps dans ces fameuses...
Alors, si on zone trop longtemps, on sort de la venture route. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne se développera pas. Mais ça sera compliqué de revenir avec le même niveau de dynamique, ne serait-ce que parce que vos chiffres comparés à un autre projet apparaîtront plus... par exemple, laisseront ressortir un développement commercial plus lent. Et donc, c'est là où le darwinisme s'applique pleinement. Le projet A passera devant.
Quand vous dites trop longtemps, ça veut dire quoi? Si pour un projet qui fonctionne, ou a fortiori pour un projet qui fonctionne pas,
entre 18 et 24 mois...
C'est court.
Pour repasser d'un... Et donc, ça veut dire que vous avez typiquement au démarrage, c'est des croissances de chiffre d'affaires, si on prend cet indicateur, entre 7 et 10% par mois.
Ouais.
D'où une incroyable pression, ça veut dire qu'aussi qu'il y a plein de projets qui sont très bien et qui n'ont pas vocation à être financés par le venture capital, qui va avoir ses exigences, qui pousse à ces fortes croissances qui, dans certaines industries, sont pas adaptées ou pour certaines équipes sont difficiles à suivre, sans pour autant que le projet ne vaille pas le coup.
On parle de venture capital, on parle de fonds d'investissement, de capital risque. Dans toutes ces expressions, il y a le mot capital. C'est quoi, selon vous, quel type de capitalisme c'est le digital dont on parle?
Alors aujourd'hui, parce que je vais faire une réponse en deux temps, aujourd'hui c'est un capitalisme d'hypercroissance. C'est ce que dit François, hein, avec ses ordres de grandeur de croissance mensuelle, on est sur de l'hypercroissance. Et quand vous regardez même Amazon aujourd'hui n'a jamais versé de dividendes de toute sa vie et vaut quasiment $1 trillion. Donc on voit bien que finalement, si aujourd'hui les gens qui achètent du stock des actions Amazon, bien finalement ils espèrent pouvoir les revendre plus cher, donc ils espèrent que l'entreprise va encore grandir, alors qu'elle est déjà l'une des toutes premières sociétés au monde. Donc ça pousse finalement à la création de géants, d'empires, et c'est ça aujourd'hui le capitalisme digital qu'on a vu. En revanche, la question se pose de savoir est-ce qu'il est tenable.
Là, on en reviendra aux bulles tout à l'heure et on parlera des évolutions attendues.
Ouais. Et fondamentalement, cette notion qui est de se dire ben, quand est-ce que des sociétés comme Uber ou comme peuvent arriver à une notion de rentabilité, une notion de long terme, où y a-t-il des équilibres à trouver? Pour moi, elle se pose d'autant plus qu'on arrive à un moment dans l'histoire où on voit bien que la croissance de ces entreprises ne tient pas compte de leur impact sur le bien commun. Qu'il y a des impacts sociétaux, qu'il y a des impacts environnementaux qui sont énormes et qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte dans leur évaluation financière. Et donc pour moi, cet hypercapitalisme digital n'est aujourd'hui pas tenable.
François Véron, sur cette même question.
Je crois que si on se remet 20 ou 30 ans en arrière, ce capitalisme numérique a offert un nombre d'opportunités incroyables pour beaucoup d'entrepreneurs qui n'étaient pas, entre guillemets, du système. On a l'immense majorité des des entreprises du digital américaines ont été fondées, par exemple, par des non-américains, des first-time ou second-time generation.
Des gens un peu chassés de Harvard et même de Stanford, comme
oui,
Mark Zuckerberg.
On a clairement eu des entrepreneurs atypiques et ça a énormément ouvert le jeu du capitalisme et de la création d'entreprises. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de ces sociétés arriver à un niveau de succès qui les place en position de monopole, de duopole. Si on prend, par exemple, la publicité en France l'année dernière, qui n'est pas le principal marché en France, mais qui est un marché important, 80% de la croissance de ce marché, tout support confondu, est capté par Google et Facebook. Et donc, on voit arriver un autre âge, après l'âge entrepreneurial, on voit arriver l'âge des grandes entreprises. On a connu ça à la fin du 19e siècle aux États-Unis dans le cadre de l'expansion du pétrole. Ça
a été Rockefeller, la Ford, etc.
Voilà, ouais. C'était des rubber barons. Hein,
exactement.
C'était un niveau de concentration de richesse jamais vu jusqu'à présent et qui était accusé de voler non pas simplement le petit peuple, mais également toutes les autres entreprises ou l'ensemble de l'économie. On sent confusément qu'on est en train de basculer dans cet âge-là en matière de digital et suivant l'intelligence de nos institutions et de la manière dont on va pouvoir adresser ces sujets-là, je pense qu'on en sortira avec une dynamique qui sera très différente. En Europe, en tout cas, on voit qu'on commence à attaquer des sujets de propriété de nos propres données, de respect de la vie privée, de droit de la concurrence. On a, dans le cadre d'État de droit, c'est de l'État de droit, ça qui est très intéressant sur ce qui se passe en Europe, la décision très récente de l'Allemagne disant que Facebook ne peut pas fusionner les données de ses différentes applications pour affiner votre profil, ou la décision de la Commission européenne avec Margaret Vestager cet été, imposant une amende quand même assez significative à Google, qui a immédiatement fait appel. Ce sont des pistes qui sont tout à fait intéressantes de rééquilibrage.
Un mot, tous les deux, sur vos fonds plus particulièrement. Marie Eklund, Daphni, à quel moment vous intervenez précisément et peut-être quelles sont les singularités, les spécificités de ce fonds? Et est-ce qu'il faut y en avoir ou est-ce qu'au contraire, il faut être prêt un peu à aller dans tous les secteurs?
Alors, sur les stades d'investissement, nous, on investit dans les premiers jours des startups jusqu'au moment où ils ont trouvé leur product market fit, donc de l'amorçage, pour employer les termes qui ont été pris au Series A, donc au moment où ils ont effectivement trouvé leur marché. Et là, l'objectif, c'est de s'étendre à l'international et d'investir dans la croissance. Les spécificités de Daphni sont à deux dimensions. La première, c'est qu'en fait, la grande différence entre une start-up qui naît en Europe par rapport à une start-up qui naît aux États-Unis, c'est qu'elle n'a pas le choix que d'aller très vite à l'international. Pourquoi ? Parce que le numérique a des effets de réseau, il y a des économies d'échelle, et en fait, on ne peut pas atteindre la masse critique sur son marché local quand on est en Europe, que ce soit à Paris, à Berlin, à Londres, à Stockholm. Donc on a besoin très vite d'aller à l'international pour atteindre cette masse critique et ces effets de réseau. Donc quand Daphni est né, il s'est construit avec cette idée de se dire, nous aussi utilisons la culture et les outils numériques pour aider nos entrepreneurs à grandir à l'international. Et donc, on a créé une communauté autour du fonds qui va aider les entrepreneurs, qui déjà nous aident à prendre de bonnes décisions d'investissement, mais qui, l'objectif étant qu'elles puissent aussi aider de manière beaucoup plus facile les entrepreneurs du portefeuille grâce à une plateforme numérique qu'on a construite en interne. Et donc, on essaye nous-mêmes de nous appliquer finalement ce qu'on demande à nos startups en nous numérisant et en adoptant cette puissance du numérique à la fois communautaire et technologique.
François Véran, quant à vous, sur Newfund, c'est le 10e anniversaire que vous fêtez en ce moment, je crois.
Oui, c'est un fonds par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs, c'est-à-dire les quasi-exclusivités des sommes que nous investissons, que nous gérons, viennent d'entrepreneurs, de family office, de personnes physiques qui investissent leur argent. Ce qui crée une assez grande ouverture dans les thématiques d'investissement et donc nous permettre de sélectionner d'abord le projet et l'entrepreneur plutôt que le secteur proprement dit. Et c'est ainsi qu'on a pu investir aussi bien dans la robotique médicale que dans une société qui développe un réseau d'air de camping-car ou un bateau gonflable qui tient dans le coffre d'une voiture et également des systèmes logiciels pour équiper les salons de coiffure. Et cette diversité est importante pour nous, non pas pour avoir à la fin un inventaire à la Prévert, mais parce qu'aujourd'hui le numérique se glisse partout.
Et que les compris dans les salons de coiffure, donc.
Y compris dans les salons de coiffure, et que les bonnes pratiques, ça fait partie de notre métier, de pouvoir repérer les bonnes pratiques et de les diffuser d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, à travers les multiples rencontres ou connexions que nous pouvons organiser entre les entrepreneurs du portefeuille.
Un fonds d'investissement de ce type, c'est combien de salariés, par exemple, François Véron, combien de start-up vous aidez,
dans lesquelles vous avez investi? On investit dans 80 sociétés. On en a cédé une quinzaine, donc on a à peu près 75 sociétés en portefeuille. Et pour animer tout ça, on est une dizaine de personnes, 9 à Paris et 1 dans la Silicon Valley, près de Palo Alto.
Combien en termes de capital
à gérer ? Gère 230 millions d'euros, dont 130 millions d'euros actifs, c'est-à-dire consacrés aux nouveaux investissements, et 100 millions d'euros qui sont aujourd'hui placés dans des entreprises qui se développent. Pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit 1700 dossiers par an de nouvelles opportunités. Ça doit représenter entre 35 et 40% du marché français.
Et vous en choisissez combien, du coup ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un marché d'à peu près 5000 start-up en France. Un fonds comme le nôtre, c'est assez typique, investi dans 1% des sociétés qui arrivent. Donc nous, on a fait 17 investissements l'année dernière, 11 en France et 6 aux États-Unis. Il faut savoir que les 99% chez qui nous n'investissons pas, ce n'est pas que de notre fait, les entrepreneurs aussi, et heureusement, ont leurs critères de sélection.
Ils choisissent aussi leur fonds d'investissement. Troisième exemple ce soir, je vous propose de nous intéresser brièvement à un fonds d'investissement qui va répondre un peu à la question aussi de pourquoi on le fait. C'est une question qu'on a posée pour Soft Power à Paul Degueuze. Il est partenaire chez Corelia. C'est un fonds d'investissement lancé notamment par l'ancienne ministre Fleur Pellerin. Paul Degueuze, que nous avons rencontré ce vendredi à Paris, explique au fond les raisons les objectifs de son entreprise et par rapport à la question financière.
Alors, ça n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est évidemment notre métier, c'est de donner à ces entrepreneurs ambitieux les moyens de construire les aventures les plus ambitieuses possibles et plus avec le plus de réussite possible. Moyennant quoi ? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs sur la place de Paris, mais même en Europe, qui se positionnent tous sur les mêmes dossiers. Donc, il est essentiel quand on est un investisseur de pouvoir, ne serait-ce que convaincre l'entrepreneur d'avoir envie de travailler avec nous. Et pour ça, il faut mettre en avant un certain nombre d'atouts, de savoir-faire et de propositions de valeur en fait utiles pour l'entrepreneur. Nous, on a vraiment pris le parti de nous focaliser sur cette proposition de valeur unique qui est l'accompagnement vers l'Asie. Aujourd'hui, ça ne correspond pas aux attentes de 100% des entrepreneurs. Il y en a plein qui s'imaginent qu'effectivement leur avenir n'est pas nécessairement là-bas. Mais en revanche, on y trouve un intérêt fort et on est vraiment capable d'accompagner, de créer de l'impact pour ces entrepreneurs. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc aujourd'hui, typiquement, c'est un peu abstrait de parler juste de notre connexion en Asie. Mais aujourd'hui, typiquement, ce qu'on fait au quotidien avec les startups de notre portefeuille, c'est de les aider à créer des partenariats stratégiques avec des grands acteurs technologiques asiatiques. J'en citais quelques-uns tout à l'heure, donc ça c'est une première chose. Lancer leurs produits commercialement sur ces marchés régionaux. Alors c'est parfois compliqué, on essaie de sélectionner les bonnes géographies sur lesquelles leurs débouchés ont le plus de potentiel. Mais c'est aussi parfois aller lever des capitaux pour des phases un peu plus en aval, au fur et à mesure, ou là faire rentrer des acteurs asiatiques qui en règle générale viennent sur des tickets, sur des stades de croissance plus importants.
À quel moment vous intervenez dans la vie d'une entreprise ?
Alors, nous, Corelia Capital, on a aussi choisi de nous positionner sur un moment, non pas en amont de la chaîne de financement. Aujourd'hui, on considère que les besoins les plus importants des entrepreneurs, et je dirais ce que l'écosystème a encore du mal à leur apporter, c'est ces capitaux qui leur permettent d'accélérer leur croissance dans leur phase de maturité. Il y a quelques années, je pense que l'écosystème français-européen souffrait d'un manque de capitaux sur les phases très amont de leur développement, donc sur la création de l'idée, la genèse, ce qu'on appelle l'amorçage, et puis après la constitution de l'équipe et du produit jusqu'au lancement sur le marché. Aujourd'hui, le constat qu'on a fait quand il s'agit de lancer notre fonds, c'était qu'effectivement, il manquait d'accès aux capitaux plus late stage, donc à des phases plus avancées, en phase de croissance, pour aider les entrepreneurs à accélérer et cranter des positions plus dominante sur des marchés en croissance et puis même rêver peut-être un peu plus grand à l'international, et c'est là qu'on intervient. Sachant que la volonté de Corelia Capital, on espère y arriver un jour, c'est de faciliter la création et la croissance de potentiels leaders de marché à l'échelle globale. Donc typiquement, on va chercher essentiellement des équipes qui s'imaginent pouvoir avoir le potentiel de devenir un leader global sur une catégorie.
À l'instant, Paul Degueuze de Corelia Capital, interviewé par David Lavoux pour Soft Power.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h45, on parle ce soir des fonds d'investissement et au fond, si on peut dire, du modèle économique français de financement des start-up et des entreprises innovantes. Nous sommes avec Marie Eklund du fonds d'investissement Daphni et François Véron du fonds d'investissement New Fund. On a déjà parlé non seulement de ce que vous faites, mais aussi de la situation un petit peu générale. Venons-en peut-être à la France et ensuite à l'avenir, où est-ce qu'on va. Comment est-ce que vous voyez l'un et l'autre la situation, où la France se situe-t-elle dans cette nouvelle économie numérique? François Véron, Marie Eklund. Marie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une période qui est aussi une période de transition dans l'économie numérique. D'ailleurs, bientôt, on ne l'appellera plus économie numérique.
On l'appellera économie tout court.
Économie tout court.
Parce qu'elle intervient dans tous les secteurs.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une première phase, hein, qui a été où le numérique, quelque part, a servi à réintermédier des choses qui étaient faciles à réintermédier, comme les médias, tout ce qui était la distribution. Donc, c'était des choses où rien que l'arrivée du numérique pour créer cette réintermédiation, ces grandes plateformes, était suffisante. Aujourd'hui, le numérique attaque des industries qui sont finalement au cœur de la vie réelle. L'agriculture, la santé.
Les salons de coiffure.
Les salons de coiffure.
Les transports,
donc,
etc. L'aéronautique.
On est vraiment au cœur de toutes les industries et c'est cette phase-là qu'on est en train de vivre. Et du coup, ça crée des nouveaux modèles de start-up et d'entreprises où on voit bien que y a maintenant, par exemple, nous, on a financé une école à San Francisco. C'est un lieu physique. Donc il y a toute la puissance du numérique pour créer un curriculum qui soit à la fois d'excellence et qui soit ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire qui peut être mis en place tel quel dans une autre école, quel que soit en un jour, quand on l'ouvre, quel que soit l'endroit dans le monde. Mais ça crée des modèles hybrides qui mixent la vie physique, la vie réelle, ce qu'on appelait historiquement la vie réelle, et la vie en ligne, la vie numérique, qui du coup devient la vie réelle aussi. Il n'y a plus de frontières.
François Véron, c'est quoi en termes de levée de fonds, si on fait une comparaison entre la France, l'Europe, les États-Unis, la Chine? On est où dans ce grand marché des fonds d'investissement et du venture capital?
On est tout petit. si on prend les chiffres de Préquin, qui est une institution qui collecte les informations de levée de fonds des différents venture capitalistes, en 2017, on n'a pas encore les chiffres 2018, en 2017, les VC avaient levé 55 milliards de dollars dans le monde, dont 34 aux États-Unis et 21 en Californie.
Dont 21 en Californie.
Dont 21 en Californie.
C'est essentiellement en Californie.
Voilà, ça veut dire 40% du montant levé l'est par des fonds californiens. Il faut voir que, y compris des fonds new-yorkais, investissent également en Californie. Hein, donc, c'est l'origine des fonds. L'Europe est à 6 milliards. Et la France, probablement, dans ce classement, autour de 1,5 milliard.
Ce qui, finalement, est pas mal au niveau de l'Europe. 1,5 milliard sur 6 milliards européens, c'est beaucoup pour un pays comme la France.
Oui, alors, si on compare la population de la France par rapport aux États-Unis, on a un cinquième. Si on compare les montants levés, on est à 1/25.
La Chine.
Et la Chine, oui.
Alors la Chine est assez particulière. Dans ce classement-là, la Chine est autour de 8 milliards de dollars. Après, il y a beaucoup de financements dans des start-up ou d'innovations chinoises qui passent par des corporates.
Et par l'État aussi.
L'industrie du venture capital est très particulière en Chine et ne porte pas l'essentiel de l'innovation.
Alors justement, on en parle souvent ici à Softpower, on parle souvent de start-up et de ce fameux modèle français, du fait que la France est tout à fait capable, et le fait très bien je crois, de financer des start-up à leur début. On parle souvent du travail de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui est très active. Et à chaque fois, on a l'impression que revient cette question de la transformation de l'essai. C'est-à-dire que toutes ces start-up, on a l'impression qu'elles ont une capacité à être accompagnées, à bien travailler, à exister jusqu'à un certain point, et elles ne réussissent jamais l'immense transformation. Notamment celle de l'international, on invoque souvent, c'était par exemple la semaine dernière Stéphane Distinguin de Capdigital, le manque d'investissement, le manque de confiance, et puis évidemment cette fameuse question du marché. On n'a pas un marché local comme les États-Unis qui est à disposition, on a un marché européen où il y a en plus d'autres personnes qui essaient de faire la même chose que nous, en Suède, en Angleterre. Qu'est-ce que c'est, comment, quels sont les défauts aujourd'hui de ce système à la française, ses qualités, ses défauts?
Marie Klein de François Véran.
Si on a le droit d'être un tout petit peu
critique
ou pas critique, simplement lucide, on est un marché qui est tiré vers l'aval. Ce qui va faire qu'une entreprise va se développer, c'est que, comme l'expliquait très bien Marie tout à l'heure, quelqu'un va croire en elle et va croire que quelqu'un d'autre demain pourra également croire en elle. L'aboutissement, dans le modèle américain, qui a quand même inventé ce système du capital risque, ce sont les marchés financiers. La Silicon Valley n'existerait pas sans Wall Street. En Europe, on n'a pas de marché financier parce que, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on finance les entreprises par les banques. Et la deuxième, et ça c'est particulièrement vrai en France, c'est que nos retraites ne sont pas investies en actions. Et donc, quand vous n'avez pas l'épargne longue qui est investie en actions, il n'y a aucune raison que vous ayez cette puissance incroyable d'attraction qui est le Nasdaq, qui est Wall Street, et qui fait que toute la chaîne derrière, a vocation à construire des grandes entreprises qui ont la capacité à rester indépendantes parce que pourront un jour être cotées sur un marché financier. Une entreprise européenne, une start-up européenne, soit elle est capable de faire ce cheminement vers le Nasdaq, et ça a été l'exemple tout à l'heure de Criteo, mais qui est un parcours d'obstacles absolument incroyable et qui
c'est
suppose
également...
C'est
la première fois qu'une entreprise était cotée au Nasdaq depuis les années 90.
À un moment historique. Donné, pour le chef d'entreprise, pour le patron, de probablement passer la main un patron de culture anglo-saxonne, ça a été le cas chez Criteo, il y a eu un CEO américain qui est arrivé, c'est quand même pas un choix banal, hein. Et peu d'entre nous seraient capables, je pense, dans une situation de succès, de dire « super, j'ai un super succès, mais finalement je vais lâcher la main pour avoir un succès encore plus important ». C'est pas si facile, c'est super quand
c'est
ça marche, quelquefois ça ne marche pas, quelquefois ça ne marche pas, et donc on est dans une situation qui, en Europe, ne va pas changer du jour au lendemain. Les marchés financiers ne vont pas tout d'un coup se développer au rythme américain en univers
Et on n'attire pas non plus les marchés américains. On pourrait se dire que les Américains, ils pourraient, ou les Chinois, investir dans des start-up européennes. Ce ne serait pas complètement absurde non plus.
Ils commencent à le faire. Hein,
mais lentement, mais ils commencent à le faire.
Ça commence à venir parce qu'effectivement, l'Europe devient un territoire beaucoup plus attractif pour eux de manière générale parce qu'ils voient qu'il y a une maturité des différents écosystèmes locaux, donc Stockholm, Londres, Paris, Berlin, etc. Mais il y a aussi un grand sujet qui est un sujet que nous n'avons pas créé d'écosystème. C'est-à-dire que pour que cela fonctionne, pour que l'on arrive vraiment à créer de très grandes entreprises, et il y a une chose qui est assez frappante en France, c'est qu'on voit bien que l'âge moyen des sociétés du CAC 40, c'est 105 ans. Hein. Donc ça fait longtemps qu'on n'arrive plus à créer de grandes entreprises. Ce n'est pas un sujet récent. Et donc, nous avons désappris finalement en fait à travailler ensemble. C'est-à-dire que il n'y a pas d'écosystème en ce sens où les choses sont très silotées. Les chercheurs en France, parle aux chercheurs. Ils ne parlent pas au monde des startups, ils parlent assez peu au monde des ce qu'on appelle les corporates, donc les grands groupes. Ils ne parlent pas aux ETI. Donc on est dans des écosystèmes, enfin finalement dans des segments de marché qui se parlent entre eux, mais qui ne se parlent pas, enfin qui à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qui ont du mal à travailler ensemble. Et à ce titre, la French Tech avait fait une étude assez édifiante où ils avaient regardé quel était le pourcentage des budgets achats des grands groupes français qui étaient dédiés aux startups, et c'était 0,4%. Donc, il y a ce sujet d'écosystème, il y a un sujet de talent, c'est-à-dire que Paris, par rapport à Berlin ou à Londres ou à Stockholm, manque de talents internationaux, est beaucoup moins attractif pour les étrangers qui ont déjà vécu des expériences de croissance dans des grandes startups, etc.
Et pourtant, on dit qu'on a beaucoup de talents, par exemple, en matière d'informatique, qu'on a des talents objectifs, vous l'avez dit parfois chez les chercheurs, qui a un vivier, que d'ailleurs il est question d'essayer de les empêcher d'aller voir ailleurs. Donc, il y a une certaine manière, il y a des talents. Il y a un problème de communication,
oui, en fait,
et d'attractivité.
Il manque certaines typologies de talents, et notamment des gens qui savent faire grandir une entreprise de 1 milliard d'euros à 100 milliards d'euros.
Ça, nous ne l'avons pas déjà fait.
François Véran, quels sont selon vous les problèmes? Problèmes d'échelle de grandeur, problèmes de pourquoi il y a peu de licornes françaises, les rachats étrangers, est-ce que c'est grave? C'est un problème? Comment vous voyez ces questions?
Je ne crois pas que les rachats étrangers, ça soit un problème, puisque ça permet aussi à des entrepreneurs de concrétiser le succès et ensuite de pouvoir réinvestir dans d'autres startups, dans d'autres entreprises souvent françaises.
Concrétiser le succès, ça veut dire récupérer de l'argent.
Exactement, ils ont de l'argent, ils veulent l'investir, ils vont l'investir dans des choses qu'ils connaissent bien.
Mais c'est comme
bien.
Si on faisait la recherche et le développement, l'innovation, l'expérimentation, et puis hop, c'est après pour les Américains.
Alors c'est pour ceux qui ont faim. C'est-à-dire que quand un Américain, je prends l'exemple d'une société qu'on a eu la chance de financer qui s'appelle MedTech Surgical, qui était le numéro au monde pour dans la robotique en neurochirurgie, donc proposer des électrodes sur le cerveau notamment, ça permet de soigner l'épilepsie. Vous posez 14 électrodes dans le cerveau. C'est un protocole qui peut se faire sans le robot en France, qui ne peut pas se faire sans le robot aux États-Unis parce que c'est 8 heures de bloc opératoire plus les problèmes d'assurance. Cette entreprise, après avoir été introduite en bourse, a été rachetée par Zimmer Biomet, qui a doublé ou triplé les effectifs du centre de recherche à Montpellier. Donc elle développe cette entreprise. Elle ne l'a pas du tout cassée, elle la développe. Elle développe sa technologie. Ce qui est intéressant, c'est que pour des entreprises ou d'autres fonds d'investissement français, c'était toujours trop cher, c'était toujours pas assez prouvé. Donc à un moment donné, ce qui va faire la nouvelle richesse des nations, c'est l'appétit, c'est la capacité à être ouvert à l'innovation et de manière sélective. Et c'est vrai qu'en France, on a une tendance assez critique. On a une intelligence critique, on a peur du ridicule, on a surtout peur de faire une bêtise. Et ça se traduit à tous les niveaux des organisations, y compris des grandes entreprises. Et c'est un frein majeur au rachat de start-up et au développement des scale-up, pour prendre le terme qui était derrière ce que nous disait Marie, c'est-à-dire au-delà de la start-up, une entreprise qui effectivement
passe à
l'échelle.
Ça veut dire aussi, on va par exemple vouloir, comme plusieurs présidents, presque tous les présidents de la République l'ont dit, on va créer un Google français, ce qui évidemment ne marchera sans doute jamais. Par contre, on ne s'occupe pas des sujets d'actualité comme le Bitcoin ou d'autres. Et on peut peut-être terminer l'émission là-dessus. C'est quoi au fond les secteurs aujourd'hui en hausse? C'est quoi qu'est-ce qui est en train de se passer? Où est-ce qu'on va? Quels sont les endroits où il faudrait investir?
Je vais laisser Marie.
En fait, moi, je vais revenir. Vous avez parlé de mon engagement dans le Conseil national du numérique au début de l'émission. Et de finalement, cet engagement-là avait un objectif qui était citoyen, c'est-à-dire qui était de cette idée de finalement créer une stratégie d'investissement. Quand on essaye d'ébaucher quel doit être le projet de société vers lequel on a envie d'aller en tant que société, mais finalement on se dit où est-ce qu'on doit investir. C'est-à-dire que l'investissement est un acte citoyen et c'est aujourd'hui celui que moi je porte, qui est de se dire comment est-ce qu'on met l'argent au service de la société qu'on veut construire ensemble, sachant que les défis auxquels on fait face ne sont pas uniquement de gérer de la croissance aujourd'hui. C'est pas le sujet, ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est comment on fait face au réchauffement climatique, comment on fait face à la fin de la biodiversité, comment on fait face à toutes les inégalités sociales qui vont aller en s'accroissant avec l'intelligence artificielle, et comment on fait face aux enjeux démocratiques en face de nous. Et je pense que l'argent doit être au service de ça.
Alors Marie Eklund vient de lister au fond quelques secteurs qui sont parmi ceux qui arrivent. Pour conclure peut-être, François Véran, sur ces secteurs en hausse.
Je crois que effectivement, c'est pas une technologie particulière, parce qu'on va avoir de nouvelles vagues. On a effectivement le sujet de la blockchain qui est aujourd'hui sur la table, savoir comment est-ce qu'on peut intégrer ce type de nouvelles technologies. Notre sujet principal, c'est la qualité des projets. Et plus ils seront ambitieux et plus ils seront transformants, pour prendre une de nos expressions jargonnantes, et plus j'espère qu'ils pourront trouver des financements en France comme ailleurs.
Les nouvelles bulles, les futures bulles qui sont à craindre?
Ah, la peur revient.
Vous parliez d'hypercroissance tout à l'heure.
Oui, je crois. C'est très difficile aujourd'hui de valoriser une start-up comme de l'art contemporain. On a la première capitalisation boursière qui est Apple, qui fait le yo-yo à plus ou moins 15% suivant les mois. On a 10 ans de croissance derrière nous et de taux zéro des banques centrales. La notion de valeur est quelque chose qui est de valeur monétaire.
Relatif.
Est extrêmement compliqué à aborder. Avant, il y avait le lien avec, on parlait du lien avec la vie réelle, il y avait le lien avec l'or, qui a été cassé dans les années 70. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion au-delà du terme de bulle, et on a tous connu cette première bulle Internet ou cette bulle Internet des années 2000. Il y a une vraie réflexion sur ce qui fait la valeur des entreprises à partir du moment où elle est déconnectée de la simple production des cash flows, puisque la révolution numérique peut venir demain casser une séquence qui paraissait très prévisible de rentabilité, et à l'inverse, on voit effectivement des sommes considérables s'investir sur des entreprises qui ne sont pas rentables.
Merci infiniment à tous les deux, François Véron, fonds d'investissement Newfound, Marie Eklund, fonds d'investissement Daphni. On a essayé de rentrer un peu dans les détails de vos métiers, qui ne sont pas les plus simples à expliquer, mais qui ne sont pas les moins intéressants pour l'avenir de l'économie française. Soft Power, dans un instant, ça continue, seconde partie de cette émission. 20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de Facebook, qui se propose de fusionner ses messageries instantanées, que ce soit Messenger, WhatsApp ou Instagram. Et nous serons pour en parler avec Gilles Fontaine, de Challenge, et l'ancien ministre spécialiste des questions numériques, Christian Paul. Et dans un instant, Zoé Sfès, votre invitée innovation, elle est déjà là, nous parle d'Aaron Schwartz.
Elle s'appelle Flore Vasseur et dans une autre vie, elle a été entrepreneuse à New York au moment de l'explosion de la première bulle Internet. Elle publie « Ce qu'il reste de nos rêves » aux éditions Équator, biographie du génie christique, ou en tout cas, disons, du saint de la liberté numérique, à savoir Aaron Schwartz.
Elle était aussi au Conseil national du numérique, d'ailleurs. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après le dernier single d'Alicia Keys, qui présentera cette nuit à Los Angeles la soirée des Grammy Awards. Passé de 2 minutes sur France Culture, on vous donnera 2 minutes de plus, Zoé Sfès.
C'est le refrain, il ne faut pas couper un refrain d'Alicia Keys.
Finalement, puisque vous chantez, c'est dans votre temps de parole. Les 2 minutes sont incluses. France Culture, 20h passé de 2 minutes.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Flore Vasseur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et depuis le début vous étiez là pendant la première partie de cette émission Soft Power, puisque on l'a dit vous avez travaillé à New York notamment dans les années 2000, vous avez vécu ce qu'on a appelé l'explosion de la première bulle Internet. Vous êtes toujours resté proche des questions du numérique, vous écrivez aujourd'hui, vous avez publié notamment Comment j'ai liquidé le siècle ou En bande organisée, vous avez surtout réalisé en 2015 un documentaire, un film qui s'appelle Meeting Snowden, où vous réunissiez Edward Snowden, Larry Lessig et Birgitta Jonsdottir, j'ai toujours peur de mal le dire, trois disons figures essentielles du combat disons pour un internet libre, et vous publiez aujourd'hui donc ce livre, Ce qu'il reste de nos vies, Ce qu'il reste de nos rêves, livre consacré à la vie, au parcours d'Aaron Schwartz, il faut que je le dise bien. Aaron Schwartz, qui c'est, Flore Vasseur?
Mais c'est très bien que vous démarriez par Snowden, parce que je pense, et Birgitta Jonsdottir, dont vous l'avez très bien dit, et Larry Lessig, parce que c'est un peu le grand frère de toutes ces personnes-là. Aaron Schwartz, c'est un garçon qui a disparu il y a 6 ans maintenant, à l'âge de 26 ans, et qui en fait est né avec l'Internet en 86, et j'ai envie de dire, il est mort avec.
Vous êtes en train d'aller directement vers la fin de cet entretien, mais c'est bien, c'est clair.
J'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc il a vraiment, il est né avec cet outil quasiment qui lui a servi de jouet. Très vite, il a codé. Très vite, il s'est rendu compte qu'au-delà de la manne économique et de l'industrie qui allait se créer, on a parlé que de ça pendant 45 minutes, il a vu tout de suite l'enjeu politique, en fait. Il a tout de suite vu qu'il y avait là un outil qui pouvait parachever quelque chose, je crois, qui aussi conduit toute notre évolution depuis que l'homme est homme, qui est le désir de s'élever, le désir de comprendre, le désir de partager son savoir, le désir de communiquer, le désir d'évoluer, en fait, de grandir en conscience, j'ai envie de dire. Et ça a été vraiment quelqu'un qui, très vite, à l'âge de... donc, il a appris à coder tout seul à 8 ans, et à 12 ans, il a programmé sa première encyclopédie, qui était un ancêtre de Wikipédia, qui est sorti 6 mois plus tard, avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de backup financier, donc il a été beaucoup plus soutenu. Mais Aaron avait 12 ans, et tout de suite, il a compris qu'Internet était un formidable outil pour l'humanité, pour son émancipation, et il s'est battu à en mourir pour ça.
Parce qu'effectivement, vous êtes parti dans un road trip où vous avez rencontré à la fois, Larry Lessig, vous revenez sur votre première rencontre avec ce juriste qui est, on a l'impression, un peu l'un des seuls aujourd'hui à pouvoir, entre guillemets, impunément, tenir des discours assez radicaux sur cette question de l'Internet libre. Vous rencontrez ses parents, vous rencontrez toute une foule de gens qui l'ont rencontré, notamment au MIT. Est-ce qu'on peut parler du MIT, s'il vous plaît? Parce que le MIT, c'est un petit peu, on va dire, la matrice symbolique et en même temps réelle de toute l'ère que l'on vit aujourd'hui. Il est passé par le MIT Aaron, comme ses frères, parce que c'était donc un garçon issu d'une famille très politisée, on va le dire, avec deux frères, eux aussi géniaux, sauf que lui, il a une dimension presque christique. Qu'est-ce qui se passe pour lui au MIT? Qu'est-ce que le MIT lui insuffle et que finalement elle ne sera pas capable de défendre quand plus tard il sera attaqué par la justice américaine?
Alors vous avez raison, sa famille est définitivement liée au MIT, mais plus que ses frères, c'est son grand-père. Le grand-père d'Aaron était un militant anti-nucléaire. Il a beaucoup financé et milité avec une organisation qui s'appelait Pugwash et qui dans les années 50 s'est formée avec des scientifiques de part et d'autre du rideau de fer pour militer contre les programmes d'armement nucléaire. Et le père était fasciné par la science, avait une vénération absolue pour les scientifiques, d'où cette association, et adorait le MIT, puisque le MIT était aussi, j'ai envie de dire, ange et démon.
Le Massachusetts Institute of Technology.
Voilà. Donc c'est l'une des plus grandes universités au monde. C'est la mecque de la science, j'ai envie de dire. Ce grand-père a vraiment, je pense, complètement insufflé ses idéaux à son propre fils et à ses petits-enfants, qui est cette idée très américaine aussi qu'il faut devenir riche très vite, entrepreneur, gagner ensuite un maximum d'argent pour ensuite sauver le monde. Mmh. Et Aaron a fait ça, parce que il a aussi cofondé une entreprise qui s'appelle Reddit, qui aujourd'hui vaut 6 milliards de dollars, qui est le 10e site le plus financé, le plus visité. Pardon, au monde, et qui a été l'inspirateur de Facebook. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait compris aussi ce code-là.
Pour parler juste des briques technologiques auxquelles il a contribué quelque chose qu'on connaît très bien, les flux RSS. Et ensuite, donc ça c'est le côté entrepreneur, trouvailleur, c'était effectivement un garçon brillant. Ensuite, très vite, il va aussi fonder ce mouvement Demand Progress, ça c'est en parallèle de tout ce qu'il fait, notamment contre le fameux SOPA, la loi SOPA. De quoi on parle quand on parle
Alors,
de ça?
Alors en fait, Aaron très vite se rend compte qu'il se joue sur Internet exactement les mêmes choses que s'il se joue sur la société, à savoir une attaque en règle contre la démocratie. Et il se passe dans les années 2008-2009 un projet de loi 2010 qui vise à censurer l'Internet. C'est un serpent de mer de l'Internet. Ils y sont finalement arrivés, mais ça c'est la première loi. Et tout de suite Aaron voit que dans la censure de l'Internet, finalement, on touche à la capacité aux gens de se relier entre eux, de partager des idées, d'avoir une parole libre, intime, etc. Derrière lui, il y a toute cette Amérique
en fond sonore, j'ai envie de dire, qui a évolué depuis septembre 2001, qui s'est retourné contre son peuple, qui la surveille, qui noyaute l'Internet, qui le verrouille, qui le transforme en un outil militaire. Et Aaron voit tout ça à l'œuvre. Et quand il est question de censure de l'Internet, il se lève, il entame une bataille de l'ombre, qui dure 18 mois et à l'issue de laquelle il réussit à convaincre justement tous les pères fondateurs de l'Internet. Larry Lessig n'est pas qu'un juriste, il est le père fondateur des Creative Commons. C'est une figure de l'Internet libre. Mais il y a aussi Tim Berners-Lee, Jimmy Wales de Wikipédia. Et ces gens-là le suivent. Et c'était une bataille absolument incroyable puisque tout le monde se fichait un peu de l'Internet. Les sénateurs, les premiers, ils comprennent pas bien ce que c'est. Ils en ont peur, ils le maîtrisent pas. C'est la jeunesse. Comme tout ce qui est la jeunesse, et ils veulent le censurer. Et Aaron éteint l'Internet pendant 2 jours. Vous l'éteindre l'Internet, alors voilà, plus aucune page Wikipédia, plus aucune page Craigslist, etc., etc. Et finalement, il arrive à faire cette organisation qui fait que Obama est submergé d'appels, 7 millions de personnes signent une pétition,
et
il retourne l'arme de l'Internet contre les gouvernements. Mais c'est l'une des rares fois où ça a marché.
C'est ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous le dites dans ce livre, au-delà d'effectivement de ses engagements, sa personnalité, toutes ces personnalités dont vous venez de parler, Larry Lessig, Tim Berners-Lee, qui sont beaucoup plus âgés que lui, qui parlent de lui comme si à la fin il était devenu leur maître alors qu'il n'est mort qu'à 26 ans. Effectivement, on comprend très bien qu'avec ça, il y a une prise de conscience, notamment de la part des politiques et du président Obama, du pouvoir de ce garçon. Et finalement, son destin se cristallise sur ce téléchargement de plus de 4 millions d'articles scientifiques disponibles sur un site qui s'appelle G-Store et qui est un site d'archivage de publications scientifiques. Quand il fait ça, c'est une des vraies questions, il est fidèle à son idéal finalement que, par exemple, les publications scientifiques soient accessibles par tout le monde. On sait aujourd'hui que le fait qu'elle soit publiée, on en parle souvent dans la méthode scientifique sur France Culture, que les publications universitaires le soient comme elles le sont aussi, entraîne toute une série de dérives. Il télécharge ses articles et là, à ce moment-là, alors que c'est même plus G-Store à retirer sa plainte, alors qu'il n'a jamais publié les fichiers, qu'il a rendu les disques durs, eh bien c'est la justice américaine, et vous racontez ça en début de votre livre, et notamment une juge, une procureure, Carmen Ortiz, clairement, on va dire, investi d'une mission par le président Obama, et qui, eh bien, l'inculpe, et lui se suicide à 26 ans, alors qu'il risque 35 ans de prison. Tout ça s'est passé en 2013, il nous reste simplement 2 minutes. 2013, c'est aussi l'année où Edward Snowden finit par révéler les écoutes de la NSA et a le destin qu'on lui connaît ensuite. Tout ça, c'était il y a 6 ans. Nous ne sommes qu'en 2019, à peine 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qui sont les héritiers de ces hommes-là?
Vous l'avez cité, le premier héritier, c'est Edward Snowden, directement. Aaron s'est suicidé en janvier, Edward Snowden sort du bois en juin. Directement, il y a l'idée que cette énergie-là, ce combat-là pour l'émancipation des populations, pour la liberté, pour la connaissance, pour l'intelligence, pour une certaine vision de l'humain et du progrès, il faut le poursuivre. Et clairement, Edward Snowden s'inscrit dans les pas d'Aaron. Il y a aussi cette jeune femme kazakh qui a repris l'idée, elle l'a fait de façon concomitante, je crois, de publier ses recherches académiques partout dans le monde. Le suicide d'Aaron a fait bouger la communauté scientifique sur ce sujet, a fait bouger l'État américain sur ce sujet, sur la thématique de l'accès à la connaissance est plutôt quelque chose qui a progressé positivement sur cette thématique.
Mais c'est sur la nature même de ce qu'est Internet.
Aaron définitivement manque beaucoup, beaucoup, beaucoup au sujet, et c'est clair que l'internet libre perd, les systèmes de surveillance gagnent, la médiocrité sur internet gagne, les fake news gagnent, et on voit les pères fondateurs de l'internet, que ce soit Tim Berners-Lee, Jimmy Wales, Larry Lessig, se battre et innover chaque jour pour proposer des solutions et réparer la bête. C'est un peu Frankenstein qui s'est échappé de la table d'opération.
Et d'ailleurs, vous racontez votre rencontre avec Larry Lessig et ses regrets, parce qu'effectivement, il fait partie des gens qui avaient soutenu Barack Obama lors de son premier mandat. Merci beaucoup, Flore Vasseur. Ce qu'il reste de nos rêves, ce road trip sur les traces d'Aaron Swartz. Je voulais simplement dire qu'Aaron Swartz était aussi un homme qui écrivait beaucoup sur des blogs. Et il y a eu un très beau livre dont je n'ai plus le nom, malheureusement, qui est sorti en 2017, qui rassemble la plupart de ses écrits et qu'il est important de relire en 2019.
L'homme qui voulait changer le monde.
Merci, Flore Vasseur.
L'homme qui voulait changer le monde. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Flore Vasseur.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h passées de 13 minutes pour le Club de la Presse Numérique en direct. Et nous parlons ce soir, pour terminer Soft Power, on parle ce soir de Facebook. Facebook qui se propose de fusionner ses messageries instantanées, que ce soit Messenger, WhatsApp ou Instagram. Et nous sommes pour en parler avec Gilles Fontaine, rédacteur en chef de Challenge. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Frédéric.
Face à vous, l'ancien ministre et spécialiste des questions numériques, Christian Paul. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Alors c'est le New York Times qui a révélé que Facebook travaillait à une unification de ses messageries instantanées, à savoir WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger. Cette fusion pourrait affecter, selon les chiffres du New York Times, plus de 2,6 milliards d'utilisateurs qui seraient donc cumulés sur ces trois messageries. De nombreuses questions sont soulevées par ce projet qui reste encore à confirmer, mais notamment des questions en termes d'expérience pour les utilisateurs, de protection des données personnelles, de concentration et donc des réactions potentielles des régulateurs. On commence peut-être par vous, avec vous Gilles Fontaine. Au fond, qu'est-ce que prépare Facebook et quelle est la logique de ce projet ?
Alors vous l'avez dit Frédéric, la formation est sortie via le New York Times qui a publié un article le 25 janvier, la veille de la présentation des résultats de Facebook, expliquant que le groupe californien avait effectivement le projet de fusionner, alors non pas les messageries elles-mêmes, les plateformes vont continuer à exister telles qu'elles existent aujourd'hui, mais en tout cas leur architecture technique, c'est-à-dire que on pourrait, quand on est utilisateur d'Instagram, correspondre avec un utilisateur de Facebook et surtout pour Facebook collecter encore plus de données, puisque comme vous le savez sûrement, on collecte beaucoup, Facebook collecte beaucoup de données sur sa plateforme Facebook et sur sa messagerie Messenger, très peu sur WhatsApp, puisque les données ne sont pas stockées, les données des utilisateurs ne sont pas stockées. Facebook n'a pas démenti, puisque au moment de la présentation des résultats, le groupe a même fait un petit communiqué expliquant que elle avait effectivement ce projet à terme, même plutôt à court terme, puisqu'on parle de fin 2019, début 2020, en mettant quelques milliers d'ingénieurs de haut vol au travail, eh bien de sortir ce nouveau produit qui lui permettrait, on peut dire, trois choses. D'abord d'avoir une stratégie de marketing encore plus ciblée de ses utilisateurs, puisqu'ils auront plus de données. Ça rassurera beaucoup les investisseurs, et d'ailleurs ça a commencé à le faire, puisque depuis la présentation des résultats et depuis l'annonce de ce projet, le cours de Facebook flambe, donc ça c'est le deuxième
si
bon argument.
Comme si l'article du New York Times avait été presque volontaire.
Alors que c'était, on peut imaginer que ça aurait pu faire un peu peur aux utilisateurs, mais en tout cas ça fait pas peur aux investisseurs, ça les rassure plutôt. Et puis en faisant effectivement cette plateforme technique très intégrée, le groupe se met aussi, on peut imaginer, un peu plus à l'abri des régulateurs qui ont un petit peu Facebook dans leur collimateur depuis 2-3 ans.
Christian Paul, comment est-ce que vous voyez le sujet en termes, comment dire, de menaces, de risques, mais aussi en termes de, il y a un sujet technologique.
Oui, bien sûr. Mais pour prolonger ce que disait Gilles Fontaine à l'instant, je voudrais indiquer que quand on recherche les raisons de tout cela, il y a évidemment des raisons économiques, comment élargir son chiffre d'affaires. Il y a sans doute aussi des raisons qu'on peut qualifier de politiques pour Mark Zuckerberg. Facebook, c'est un géant. Mais c'est un géant qui a d'immenses fragilités. Il a provoqué des scandales retentissants au cours des années récentes. Sa probité en matière de données et son efficacité en matière de protection des données personnelles est mise en cause partout dans le monde. Et donc, sans doute, il y a une sorte de volonté de rebondir qui peut s'apparenter à une fuite en avant de la part de Facebook et de son principal dirigeant. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut appréhender les menaces que peut représenter évidemment ce mécano industriel, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Dans l'ère numérique, il y a d'énormes mécanos industriels qui mettent en jeu des acteurs qui pèsent évidemment plusieurs dizaines de milliards de dollars et qui ont en l'occurrence plus de 2 milliards d'utilisateurs. Donc le risque, c'est quoi? C'est que les données personnelles soient captées dans des conditions différentes. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est une messagerie cryptée. Il suffit de donner un numéro de téléphone mobile pour rentrer dans une boucle WhatsApp. Facebook, en revanche, il faut donner des coordonnées plus précises. Donc, comment tout cela va s'articuler ? Deuxièmement, on voit bien que c'est une logique d'intégration et de concentration dans un système fermé. Facebook, c'est un système qui enferme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de gens qui quittent Facebook, qui réduisent leur activité. La génération qui vient, d'ailleurs, utilise beaucoup plus Instagram, sans d'ailleurs savoir que
Facebook
est propriétaire d'Instagram, comme de WhatsApp. Mais la génération qui arrive se détache progressivement de Facebook. Donc, il y a à la fois fragilité, volonté de rebondir, de gagner évidemment plus d'argent avec les données, sans doute de séduire de nouveaux annonceurs, puisque la mécanique de Facebook, c'est d'abord une mécanique d'un marchand d'espace publicitaire. Donc c'est dans ce contexte, sur ce fond de décor que cette annonce est venue. Et c'est vrai qu'il est urgent de mettre une nouvelle fois Facebook sous surveillance.
Gilles Fontaine.
Alors, c'est vrai qu'il faut revenir aussi sur le modèle de Facebook, hein, qui est un modèle par rapport à d'autres géants de l'Internet. On peut prendre Google, par exemple. Google, évidemment, a un modèle qui repose essentiellement sur la publicité, mais a réussi depuis quelques années à diversifier aussi ses ressources, ce qui n'est pas le cas de Facebook. Plus de 95% de son chiffre d'affaires vient de la publicité. Les tentatives que le groupe a faites depuis quelques temps n'ont pas donné grand-chose. Il y avait effectivement une tentative d'aller vers le marché des entreprises qui a échoué. Le marché chinois, évidemment, est complètement bloqué à Facebook. Il y a quelques perspectives en Inde, mais c'est quand même assez fragile. Il y a des choses un petit peu plus délirantes comme Aquila, vous savez, cette aile géante qui voulait envoyer sur les pays, en Afrique et sur certains pays asiatiques pour propager l'accès en Wi-Fi et donc la bonne parole Facebook. Le projet a été complètement abandonné. On peut aussi parler de son projet Oculus, qui est son grand programme de
à réalité. Partir du rachat d'Oculus. D'ailleurs.
À partir des rachats, vous savez, c'est les grosses lunettes de réalité virtuelle. Le pour le moment, ce projet-là est un petit peu au point mort. Et donc, on est effectivement, on voit Facebook qui est un peu empêtré entre cette stratégie défensive, hein, parce que ça ressemble quand même à une stratégie défensive, et un peu la fuite en avant, c'est-à-dire que pour maintenir cette croissance à tout prix, eh bien, le groupe est obligé d'imaginer des mécanismes où il doit finalement consolider sa base d'utilisateurs aujourd'hui.
Mais pour se faire un tout petit peu l'avocat du diable, Christian Paul, est-ce que c'est pas d'une certaine manière cohérent quand on a trois entreprises, certes différentes, comme Instagram, WhatsApp et Messenger, qui appartiennent toutes les trois à Facebook, est-ce que c'est pas cohérent d'essayer d'unifier des messageries de ce type instantané quand eux, très souvent, on reçoit des messages, on en a de tous côtés, est-ce qu'il y a pas c'est pas normal finalement d'essayer de les recentrer? On a déjà les SMS, on a Viber pour beaucoup, on a des choses comme Zoom, comme Signal, comme Slack. Il y a les messages directs de Twitter. On reçoit des WhatsApp, on reçoit des SMS.
Vous rêvez d'une messagerie universelle qui aurait un monopole intégral et qui, évidemment, s'évaderait encore plus du contrôle des citoyens usagers comme des autorités publiques. C'est un cauchemar que vous décrivez, mais je suis persuadé que c'est le diable plus que l'avocat là qui s'exprime.
Au sein de Facebook, au sein de ces trois-là, ça serait pas déjà normal au fond de les ressembler autour de WhatsApp, par exemple?
Il y a beaucoup de gens à travers le monde et pas seulement de dangereux gauchistes, mais aussi des économistes libéraux qui souvent sont en désaccord sur beaucoup de choses, mais qui pensent qu'aujourd'hui les GAFA sont trop grands, trop gros. Jean-Hervé Lorenzi, qui est un économiste français, a écrit un livre il y a 2 ans sur le démantèlement des GAFA. Et donc la question qui se pose, c'est pas de les inciter, de les encourager, de leur faciliter l'hyperconcentration, c'est plutôt au contraire de s'interroger sur, comme on l'a fait dans l'économie traditionnelle pour les empires pétroliers ou pour les chemins de fer, mais comme on l'a fait aussi récemment dans les 20 dernières années à propos des banques, est-ce qu'aujourd'hui ces géants n'appellent pas une décision des opérations anti-concentration en Europe,
oui, mais encore une fois,
aux États-Unis également.
Paul, c'est des sociétés qui ont été rachetées par Facebook, ouais. Donc l'uniformisation, elle existe déjà. Ces trois sociétés de Facebook, donc ils unissent leurs forces. Est-ce que en soi, et encore une fois, c'est une question d'avocat du diable, est-ce que d'une certaine manière, Gilles Fontaine, c'est pas un moyen aussi de simplifier la vie des utilisateurs?
Sûrement. Enfin, à partir du moment où une entreprise fait des acquisitions, rachète des...
On est chez Facebook.
On est chez Facebook. Moi, je me mets à la place des dirigeants de Facebook. J'ai payé 1 milliard de dollars pour Instagram. J'ai payé 20 milliards de dollars pour WhatsApp. Bah, j'estime que j'ai le droit d'en faire à peu près ce que je veux. Sauf qu'au moment de l'accord, effectivement, Mark Zuckerberg s'était engagé à ce que ces messageries continuent à vivre leur propre vie, à leur propre existence, et surtout à ce que les données ne soient pas partagées entre les plateformes. C'était un engagement qui avait été pris également vis-à-vis des régulateurs. Là-dessus, on peut dire que Mark Zuckerberg s'est complètement assis sur ces accords, et que on se souvient que la CNIL a tapé du poing sur la table il y a un an ou deux en infligeant une amende de 150 000 euros à Facebook, qui s'en est très très mal remis, on le voit bien aujourd'hui.
C'est sûr, ils sont en faillite depuis.
Voilà.
On a tous vu que Facebook était en grande
difficulté. Frédéric, si on veut être sérieux, il faut quand même considérer que le pacte de confiance qui existait, tant bien que mal,
a été trahi
pour des centaines de millions de gens à l'égard de Facebook, peut-être n'en étions pas, mais ça existait, ce pacte de confiance a été abîmé, profondément rompu avec l'affaire Cambridge Analytica, qui était évidemment dû à des manipulations de données, mais aussi à la façon dont Facebook avait laissé aspirer les données de dizaines de millions de gens.
Et n'en a pas informé les utilisateurs.
Voilà, sans protection, sans alerte. Et donc là, je crois que, encore une fois, Facebook, c'est un colosse, mais c'est un colosse très fragile, et d'abord pour des raisons qui lui reviennent. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Zoé ?
Mais je pense qu'on parle aussi des usages. Bon, d'une part, ça peut être un coup de pied dans le, se tirer un coup dans le pied, parce que d'une part, les usages sont pas les mêmes sur WhatsApp et sur Messenger, et on les utilise pas du tout
encore
sur les mêmes fins.
Encore moins sur Instagram.
On n'a pas les mêmes contacts, on n'a pas les mêmes communautés, on ne communique pas avec les gens de la même manière. Effectivement, en plus, je pense que certains, et vous l'avez redit tout à l'heure, en parlant du fait tout simplement que sur WhatsApp, les messages sont cryptés, je pense que dans cette fameuse... en même temps, ça peut être pas mal, ça peut ramener les gens à une forme de réalité. Dans ce moment de grand doute sur Facebook, on est assez tenté, par exemple moi, de se dire, maintenant je vais arrêter avec Messenger, où mes données sont livrées en pâture, et je vais rester sur WhatsApp, parce que c'est crypté et que c'est pas si dangereux.
Mais on a aussi
Il est évident que si tout cela devenait une seule et même messagerie, le pacte de confiance serait rompu, et d'une certaine manière, c'est finalement se présenter tout nu face aux usagers. La question étant, est-ce que ça va les pousser à prendre des décisions radicales type quitter Facebook ou pas du tout?
Alors Christian Paul, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer cette séquence?
Alors, on peut faire trois choses. On peut évidemment considérer que tôt ou tard, la question du démantèlement, en tout cas la scission de ces empires du capitalisme numérique sera réellement d'actualité. C'est pas tout de suite, mais l'idée chemine. Ensuite, il y a évidemment des initiatives ou des réactions citoyennes. Bon, la première, évidemment, ça peut être de quitter Facebook. On peut très bien vivre sans Facebook. Ça peut être aussi des initiatives citoyennes, ça peut être de la recherche publique pour inventer des plateformes qui soient aussi attractives, qui simplifient autant la vie, puisque c'est quand même ça l'argument majeur de Facebook, mais là aussi on voit bien que des tentatives existent, elles ne sont pas à l'échelle de Facebook. Et la troisième chose, c'est la régulation. Alors la régulation, on sait bien qu'elle court derrière les avancées et les innovations, notamment dans ce domaine. Mais enfin, on a vu aussi récemment, avec le règlement général européen, avec les tentatives en matière de fiscalité, que la régulation, qui a toujours un coup de retard, se met en branle et qu'elle parvient aussi à rattraper les choses avant que ce soit peut-être irréparable. Et donc, en matière d'anti-concentration, on voit bien qu'il faut que les autorités publiques, encore une fois l'Europe, les États-Unis, se mettent en branle.
Gilles Fontaine, mais d'une certaine manière, est-ce que c'est pas aussi paradoxalement une volonté de Facebook que d'essayer d'éviter les régulations en faisant ça?
Bien
est-ce
sûr.
Que ça va pas leur...
Quand je parlais parlait de système défensif, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait vu Microsoft faire à peu près la même chose à la fin des années 90, au moment de la fameuse guerre des navigateurs. Alors les plus jeunes s'en souviennent peut-être pas, mais il y a eu d'autres. Finalement, Microsoft a dû faire
donner la
arrière.
Naissance à Google,
mais,
d'une certaine manière.
Mais effectivement,
aussi
il y avait la même tentation de tout intégrer pour.
Ça leur a pas tellement réussi.
Non, ça l'a pas réussi parce que finalement, in fine, Explorer, le navigateur de Microsoft, est minoritaire aujourd'hui, et parce que Google, un autre géant, a réussi à s'imposer à peu près sur tous les smartphones. Mais la bataille dure longtemps. C'est-à-dire que Facebook s'engage aujourd'hui à ramasser l'architecture de ses plateformes. Ça va peut-être prendre des années, si jamais on lui impose de le faire, de tout démanteler et de tout dégoupiller, si je puis dire.
Un mot, François Véran, vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous réagissez comment, ce qui vient d'être dit ?
Je crois qu'énormément de groupes cherchent aujourd'hui à avoir une vision unifiée de leurs consommateurs ou de leurs utilisateurs. On a Accor qui développe une marque ombrelle et qui fait que si vous allez en semaine dans Ibis, chez Ibis et de week-end chez Sofitel, Accor veut avoir une vision unifiée de votre vie à l'hôtel, alors que vous-même, vous pouvez peut-être vouloir segmenter vos différents usages d'hôtel. Donc je pense que quand on va aller dans cette direction, on va se rendre compte, comme d'habitude, que le numérique n'est pas autonome et qu'il y a des résistances, y compris dans l'économie réelle. Ce qu'il faut, c'est tout simplement respecter l'état de droit et la règle juridique et éviter l'émotionnel sur ces sujets très complexes.
On a essayé d'éviter l'émotionnel. Merci infiniment Gilles Fontaine de Challenge, Christian Paul, ancien ministre, enseignant en Sciences Po Lyon, président de la 27e région, François Véran qui était resté avec nous du fonds d'investissement New Fund. On en reste là pour ce soir. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que l'écrivain italien Eri De Luca sera l'invité des Matins de France Culture demain. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Bonne fin de week-end.